Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à votre émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui est au microphone. Je suis en présence de Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains. Nous allons ensemble regarder vraiment un texte spécial, pour ne pas dire un texte choc, un texte vraiment qui dérange. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de « heureux les pauvres » que l'on lit candidement dans nos églises? Il va falloir vraiment qu'on regarde ça de plus près ensemble ce matin. Alors, ce texte, il est situé au chapitre 6 de l'Évangile de Luc, et je vous en fais lecture maintenant. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Regardant alors ses disciples, Jésus dit, « Heureux les pauvres, parce que le royaume de Dieu est à vous. Heureux ceux qui ont faim maintenant, parce que vous serez rassasiés. Heureux ceux qui pleurent maintenant, parce que vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheureux vous les riches, car vous avez votre consolation. Malheureux vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Malheureux vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous quand tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi que leur père traitait les faux prophètes. »
Alors, comme vous disiez, Claude, c'est un texte choquant et qui est à la limite de l'absurdité, hein, tellement c'est contraire aux valeurs de notre société, là. Comment peut-on entendre ce texte si on est pauvre? Comme j'entendais un économiste dire qu'il y a un peu plus de 90% des gens de la planète qui sont pauvres. Je pense pas que ces gens-là aient envie de se faire dire qu'ils sont heureux d'être pauvres. Et si, comme vous et moi, on n'est pas pauvre, ce qui ne veut pas dire qu'on est riche, et qu'on est intéressé à l'Évangile, comment entendre ce texte-là, ça donne l'impression que le règne de Dieu, c'est pas pour moi?
En somme, ce que vous dites, c'est que c'est différent de l'autre version que l'on retrouve en Matthieu.
Hein? Oui, ça pourrait être pour moi la béatitude dans Matthieu. Je pourrais être pauvre en esprit, pourrais avoir faim et soif de justice.
C'est ça.
Mais dans Luc, Jésus dit « Heureux vous qui avez faim maintenant », plus précisément « Heureux les ayant faim maintenant ». Donc, on n'est plus dans les attitudes intérieures ou le programme de vie chrétienne qu'on trouve chez Matthieu, qui est un texte quand même exigeant dans Matthieu, mais on peut le comprendre, ça nous dit comment agir. Chez Luc, ça parle d'un état de fait, d'une situation objective, des situations de pauvreté, de faim, de détresse. Seulement la quatrième béatitude échappe à ce que je viens de dire. Les gens sont, dans la quatrième béatitude, rejetés, méprisés à cause de leur fidélité au Christ. Bon, ça, c'est un peu plus facile à comprendre. C'est différent des trois premières. Et puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais pas commenter la quatrième béatitude. Alors, si on prend l'ensemble du texte que vous nous avez lu, Claude, on voit d'abord à qui Jésus s'adresse. Il y a beaucoup de monde, hein? C'est une foule de disciples. Jésus descend de la montagne. Dans Matthieu, on est sur la montagne avec les disciples. Ici, on est dans la plaine avec une foule de disciples et beaucoup d'autres personnes. Et donc, Jésus s'adresse à un auditoire large, hein? Et malgré les traductions fréquentes qui ne sont pas vraiment fautives, mais le « vous » de la promesse, hein, « à vous est le règne de Dieu », il n'est pas dans la première moitié de la béatitude. C'est pas tout à fait « heureux vous les pauvres ». C'est « heureux les pauvres, à vous est le royaume ».« Heureux les ayant faim maintenant »,
vous serez rassasiés.
C'est ça. Mm-hmm. Heureux les pleurants maintenant, vous serez consolés. Donc, c'est une parole qui, évidemment, vise les pauvres, les affamés, les gens écrasés par le malheur, mais c'est une parole adressée à tout un auditoire et que tous doivent entendre. On pourrait, par exemple, le formuler plus clairement ainsi. Heureux ceux parmi vous qui sont pauvres, car le règne des cieux est à vous. Heureux ceux parmi vous qui ont faim, vous serez rassasiés. Alors, ça veut dire que c'est une parole que tout le monde doit entendre, même si, comme aujourd'hui, elle est entendue aussi par des gens qui ne sont pas pauvres et qui n'ont pas de manque de revenus, de sorte qu'ils crèvent de faim. Alors, la formule, donc, elle s'adresse à tout le monde.
Ben, justement, regardons-là cette formule.
Oui, heureux.
Heureux, c'est sûrement pas un souhait, ça.
Non, c'est dans la formule biblique, parce que ça n'est pas une invention de Jésus.
Ça relève de la tradition biblique,
oui,
quoi.
Oui, tout à fait, et c'est une constatation. C'est de déclarer le bonheur de quelqu'un. C'est un petit peu comme une formule de félicitation. On l'a ailleurs, par exemple, dans Luc, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Vous avez de la chance. Bon, ça peut être aussi dans l'Ancien Testament, heureux ceux qui marchent dans les voies du Seigneur. Bon,
ouais, ensemble, c'est une formule de félicitation.
Oui, c'est ça. Okay. Mm-hmm. Alors, évidemment, de dire ça à des pauvres, à des affamés, à des affligés, pour nous, ça n'a pas de sens. Là. Et dans notre société, on dirait plutôt heureux celui qui possède ce qu'il désire. Ou à la limite, avec une sorte de sagesse courante ces temps-ci, heureux celui qui sait se contenter de ce qu'il a et qui ne désire rien d'autre. Ça peut toujours aller, ça, dans nos valeurs sociales actuelles. Mais jamais on dirait heureux celui qui manque de l'essentiel. Non. Et on doit, je pense, prendre vraiment la mesure de ce qu'il y a de scandaleux dans cette formule-là.
Et pour nous aider à comprendre, la deuxième partie qu'on appelle les malédictions, qui est peut-être pas le terme qu'on devrait utiliser, là, le malheur à vous, ça apparaît comme presque un souhait.
Oui, et ça n'est pas le cas.
Même une condamnation.
Oui, ce qui est encore pire.
Ce qui est encore pire.
Et le mot n'est pas là, le mot malheur n'est pas là, le mot grec ici, c'est une exclamation. C'est un « why ». C'est comme ça que ça se prononce aussi, apparemment.
Hélas.
C'est une exclamation de chagrin.
Hélas pour vous, les riches.
Ça nous paraît quand même absurde de dire hélas pour vous, les riches. Hein. Mais donc, ça vise à constater qu'ils sont dans une situation inverse des béatitudes. C'est un constat de leur malheur. Et on a les quatre énoncés « malheureux êtes-vous », qui sont bien traduits d'ailleurs dans le lectionnaire. C'est l'inverse, hein? C'est le contre-pied exact des quatre béatitudes. Ça vise les riches. Ensuite, les repus, ceux qui n'ont pas faim. Les riards, les gens louangés par tous. Hein? Et on a les mêmes renversements. Hein? Vous riez, vous pleurez, vous êtes repus, vous aurez faim, ainsi de suite. Alors, c'est radical, c'est sans nuance, et on se dit franchement.
Et là, ça fait écho au cantique que l'on trouve au début de l'évangile de Luc, de la Vierge Marie.
On s'attendrait à entendre un discours comme ça dans la bouche d'un révolutionnaire sur sa montagne, et on s'aperçoit que Marie, la petite Marie, enceinte, chante le même genre de choses juste après que Élisabeth lui a dit une béatitude, d'ailleurs, heureuse celle qui a cru que la parole du Seigneur va s'accomplir. Marie chante, entre autres, ce Dieu qui sauve, hein, il jette les puissants en bas de leur trône, il élève les abaissés, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. On voit bien, Claude, que ce sont les mêmes renversements concrets. Hein. Marie aussi croit à cette parole. En fait, son chant exprime la foi d'Israël. Elle parle, pourrait-on dire, avec la voix des pauvres de Yahvé.
C'est ça.
Et Jésus, lorsqu'il proclame les béatitudes, lui aussi a en tête les pauvres de Yahvé, hein, qui, dans la Bible, ne sont jamais que pauvres, c'est-à-dire c'est jamais seulement un aspect d'argent. C'est celui qui est écrasé, c'est celui qui est méprisé par les forts. C'est un manque aussi bien de dignité, de statut, de liberté, Que d'argent.
C'est ça. Et elle reprend en ces termes ce que l'on retrouve chez les prophètes.
Oui.
C'est le reflet de toute une pensée que l'on retrouve dans le Premier Testament.
Oui,
finalement.
Une sensibilité très forte à l'exploitation des petits. Et je n'en lis qu'un petit bout, mais il y a des centaines de textes chez les prophètes, hein, qui les prophètes sont la voix des pauvres. Alors, par exemple, Michée au chapitre 3, « Écoutez donc, chef de la maison de Jacob, eux qui dévorent la chair de mon peuple, qui lui arrachent la peau, qui lui brisent les os, vous détestez la justice, vous tordez ce qui est droit, vous construisez Jérusalem avec le sang et le crime. »
C'est très dur.
C'est très dur et y en a plein comme ça chez Isaïe, chez Amos, Osée. On pourrait faire le tour de tous les prophètes, ça revient. Donc, ce cri des prophètes au nom des gens qui n'ont pas de statut, qui n'ont plus de voix, qui sont exploités parce qu'ils sont faibles et sans moyens, hein, qui sont les victimes, finalement, d'une société où règne la loi du plus fort. Hein, « Struggle for life », alors « gagne ou crève ». Et en principe, vous savez, Claude, ces gens-là, la loi de l'Alliance les protège. Hein. On voit, par exemple, au chapitre 15 du Deutéronome, « Il n'y aura pas de pauvre chez toi si tu écoutes la voix du Seigneur », c'est-à-dire si tu suis sa loi. Et s'il y a des pauvres chez toi, ouvre ta main toute grande. Donc, normalement, il y a quelque chose pour ces gens-là. Et en principe, d'ailleurs, le roi doit faire respecter la loi de l'Alliance et donc doit protéger les petites gens. Ben, on sait bien que les rois, c'est... ça s'intéresse aux gens riches, aux gens puissants, hein,
mais
faibles. Hein.
Ouais, mais dans l'idéal du Premier Testament, le roi, comme vous dites, devait être là pour veiller à ce que les plus pauvres, leurs droits soient respectés.
Exactement.
Ça, c'est important,
et si
ça.
Lui ne le fait pas, qui le fera?
Voilà.
Mm-hmm. Alors, l'Ancien Testament, le Premier Testament a répondu à cette question. Qui le fera? C'est Dieu. Qui est le seul vrai roi en Israël, c'est Dieu. Et alors, les gens, les petites gens, commencent à espérer que Dieu lui-même vienne régner. Et lorsqu'il viendra régner, il va renverser la loi du plus fort, il va renverser ceux qui dominent, il va élever ceux qui sont écrasés, et il va leur donner leur part de bonheur. Et c'est ça que Marie chante, finalement. Elle qui est au seuil de l'avenue du règne de Dieu. Vous voyez, puisque elle est la mère du Messie. Et donc, les renversements qu'on a dans le Cantique de Marie expriment la conviction que pour Dieu, chacun est précieux, chacun a droit à la terre qu'il a donnée à ses pères, finalement. Et donc, lorsque Dieu va venir régner, il va opérer les renversements et rendre justice à ceux qui crient vers lui.
Et on se rend compte que Luc est très, très sensible à tout ce que vous venez d'exprimer. On retrouve ça, par exemple, dans sa parabole de Lazare et du riche,
oui.
Dans Zachée et bien d'autres exemples.
Oui. Alors, pour les gens que ça intéresse, la parabole de Lazare et du riche se trouve au chapitre 16. Et on dit bien du riche et non pas du mauvais riche. Le texte de Zachée, qui est propre à Luc aussi, est au chapitre 19. C'est à d'autres endroits, hein, le chapitre 14 qui dit, c'est pas vraiment une parabole, un conseil, quand tu invites des gens à ta table, invite les pauvres, hein, parce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre. Donc, vous voyez, le souci, c'est vraiment prendre conscience des pauvres et des malpris. Et partager avec eux. Faut faire attention à ne pas glisser vers une promotion de la pauvreté. Ça n'est pas ce que Luc fait. C'est vrai qu'il a une réflexion sur le danger des richesses, mais surtout il fait la promotion de la compassion envers les malpris. Et on le voit, par exemple, dans l'idéal qu'il propose de la communauté chrétienne au livre des Actes des Apôtres, hein, au chapitre 4, un texte assez connu. Parmi eux, nul n'était dans le besoin parce que les gens mettent en commun leurs biens justement pour s'assurer que personne n'est pauvre, que personne n'est manquant. On n'est pas dans un idéal de pauvreté ici. On combat la pauvreté dans le groupe en
c'est
partageant
ça.
Les biens. On essaie, au fond, dans le portrait que Luc nous fait, on essaie d'appliquer ce qu'on disait du Deutéronome au chapitre 15, « Il n'y aura pas de pauvre chez toi ». Vous voyez, c'est comme un idéal du Premier Testament que Luc reprend pour bien montrer la priorité de Dieu pour les malpris. Hein. Les béatitudes que nous avons lues disent une priorité de Dieu pour les malpris et invitent à espérer le règne de Dieu qui va mettre en œuvre cette priorité-là. On ne peut pas, autrement dit, on ne peut pas dire heureux les pauvres tout seul. On doit dire « car le règne des cieux ou le règne de Dieu est à vous ». Ce Dieu-là, dont la perfection, selon Luc, est justement la compassion. Vous connaissez probablement la phrase de Matthieu, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ».
Oui, et oui, mais je pense, et voilà, continuez, Luc l'a traduit.
La perfection de Dieu pour Luc, c'est la miséricorde. Hein. Chez Luc, c'est « Soyez miséricordieux comme votre Père du ciel est miséricordieux, soyez compatissants », on pourrait traduire. Et c'est pas loin après nos béatitudes, c'est au chapitre 6, presque juste après nos béatitudes, là. Donc, vous voyez, il présente vraiment la perfection de Dieu comme étant les entrailles de compassion de Dieu pour les gens mal pris. Vous allez trouver que c'est une expression trop forte, peut-être, les entrailles de compassion.
Mais c'est vraiment le mot grec, en fait. Remuer dans ses entrailles. Oui. C'est le coup de poing dans le ventre.
Tout
quoi.
À fait.
On pense aussi à l'épisode du bon samaritain.
Exactement, hein, qui emploie précisément cette expression-là.
Il est vraiment, le bon samaritain, il fait pas ça par principe. Lui, là, il est profondément... C'est le coup de poing dans le ventre. Il est en état de choc quand il voit le blessé là, sur le bord de la route.
Et on retrouve cette expression-là même appliquée à Dieu lui-même dans le Cantique de Zacharie au chapitre 1, après la naissance de Jean le Baptiste. Zacharie parle des entrailles de compassion. Et évidemment, les gens vont chercher parce que ça n'est jamais traduit comme ça. C'est la bonté profonde.
Oui, c'est ça.
On édulcore un petit peu.
On adoucit.
Ouais. Mais il y a quelque chose là
de physique,
de viscéral, pourrait-on dire, chez Dieu, dans son souci des gens laissés pour compte et écrasés par les plus forts.
Alors, en fait, c'est en écho au tout début du ministère de Jésus. Il y a deux ou trois dimanches, là, Jésus est dans la synagogue et il a lu
dans
Nazareth, justement, il a lu un extrait du livre d'Isaïe, je pense c'est chapitre 61, où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la liberté, etc. »
Intéressant, c'est la première phrase de la vie publique de Jésus dans Luc. « Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Alors, faut pas s'étonner.
Ouais.
Vous avez raison. Qui dit heureux, vous les pauvres.
Et elle est enracinée dans l'Ancien Testament.
Absolument. Là où Luc enracine aussi cette parole et cette proclamation de Jésus, c'est dans l'action. Vous nous disiez la semaine dernière, d'ailleurs, vous-même, vous avez fait le lien entre Jésus qui avait agi à Capharnaüm avant d'enseigner aux foules au bord du lac. Et le lien parole-action chez Luc, il est très important. Et curieusement, dans notre récit du lectionnaire, dans notre texte, on a coupé le début. On est au chapitre 6, les gens qui voudront aller voir, nous avons dans le lectionnaire le verset 17 qui est, bon, Jésus qui descend de la montagne et qu'il y a un grand nombre de gens qui sont venus de partout. Et ensuite, on saute au verset 20, regardant alors ses disciples, Jésus dit.
Imaginez. Et on saute par-dessus 18 et 19.
Pouvez-vous nous les lire?
Qui se lisent comme suit. Ils étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui. Il les guérissait tous. Et tout de suite après vient notre texte d'aujourd'hui.
Voilà. Et regardant ses disciples, Jésus dit « Heureux les pauvres, car le règne de Dieu est à vous ». Autrement dit, la parole qu'il vient de prononcer, elle est arrimée par Luc directement sur une action qui fait ce qu'il dit. Heureux, vous les malpris, je m'occupe de vous. Alors, il a bien arrimé, donc, la parole de Jésus sur des actions. Il les a guéris, il s'en est occupé, et ensuite, il peut dire, heureux, vous les pauvres, car Dieu s'occupe de vous, car Dieu est inquiet, préoccupé pour vous. Alors, c'est une parole, dans sa radicalité, je dirais, qui n'a pas de sens sans une action qui la rend pertinente. Hein. au fond, il faut, pour dire quelque chose comme ça, il faut poser des actes de solidarité, au minimum des actes de solidarité, qui rendent l'espérance possible, parce que c'est une parole d'espérance. Comment dire à quelqu'un d'espérer si on ne fait rien pour l'aider? Hein, c'est une absurdité. Alors, c'est pourquoi j'insistais tout à l'heure sur le fait que l'auditoire est multiple. Hein. La parole, c'est pertinent de l'adresser aussi à des gens qui ne sont pas pauvres, parce que ces gens-là sont appelés à faire comme Jésus, à poser des actes qui révèlent le Dieu qui s'inquiète des pauvres, qui est remué de compassion, qui veut faire advenir un règne où ils auront leur part de bonheur. Voyez, on est tous invités, je dirais, à collaborer
c'est
à pas, ça.
C'est ça, c'est vraiment une invitation à l'action,
oui.
Quoi.
C'est peut-être pour ça qu'on est un petit peu mal à l'aise aussi avec ce texte-là, parce que ça nous engage sur une pente difficile à grimper, je dirais, et contrairement à une pente glissante. Un reflet de ça, vous allez peut-être être surpris, Claude, c'est qu'à l'Institut pastoral, par exemple, il y a toujours moins d'inscriptions pour les cours qui font le lien entre l'Évangile et la justice sociale, par exemple, ou qui travaillent la vie chrétienne dans des perspectives économiques ou des perspectives de société. Bon, il peut y avoir d'autres raisons au malaise que nous éprouvons. Au fait que, par exemple, l'Évangile nous interpelle à agir pour rendre crédible une telle parole, mais je dirais qu'une partie de notre malaise vient de cet appel, du fait que si moi je ne suis pas le pauvre ou la personne affamée, comment puis-je entendre un texte qui m'engage dans une action dont les résultats sont tellement à petite échelle, hein? Je vais pas changer le monde, moi. Alors, d'une certaine manière, ça me renvoie mon sentiment d'impuissance, vous voyez, à changer le monde. Qu'est-ce que je peux faire? Jésus a guéri quelques boiteux, quelques aveugles. Si au moins je pouvais faire ça, ça serait déjà pas mal. Et pourtant, on est loin du compte parce qu'il n'a pas guéri tous les aveugles de son temps. Il n'a pas empêché la maladie de continuer d'exister, vous voyez. En plus, nous, aujourd'hui, on est dans une culture qui mesure tout à l'échelle de l'efficacité et des résultats. Alors, comment entendre une parole qui m'engage dans une action dont les résultats vont toujours être trop petits? Alors, il me semble que, d'une certaine manière, je suis dans une culture qui décourage de développer tout simplement des moyens de solidarité active avec les malpris qui sont proches de nous. Et pourtant, Je regarde ce qui s'est passé, la mobilisation autour des événements, des malheurs qui se sont abattus sur Haïti, qu'on ne doit pas récupérer là, à notre profit. Mais ce qui me frappe, c'est que ça dure, cet élan d'aide, ce désir d'être généreux, cette compassion qui s'est exprimée. Spontanément, ça va, mais que ça dure... Ça me paraît intéressant. Alors que on entend bien le réalisme des gens qui disent « Oh, mais attention, c'est pas fini. Oh, mais c'est tout un contrat. Et puis, il faut rebâtir tout. » Vous voyez, donc, il y a du réalisme, là. On peut pas dire « Ce n'est que le travail de certains rêveurs. »
Et ce réalisme se traduit par des actions,
oui,
concrètes.
Oui.
Hein? On fait pas juste... En parler,
oui,
quoi.
C'est ça. Il y a eu des dons, il y a une mobilisation. C'est une victoire, je dirais, sur un certain cynisme, hein, et un certain égocentrisme qui est cultivé, à tout le moins dans la publicité. Moi, je n'en reviens pas de voir des publicités qui font la promotion de l'égocentrisme, là. Surtout pas partager ma barre de chocolat, vous voyez. Ce que je trouve intéressant dans ce qui se passe pour Haïti, c'est que ça me dit que quelles que soient les motivations des gens, quelque part, le rêve de Dieu, d'une humanité sans pauvres et sans malheureux, ça nous fait du bien de le porter, ce rêve-là. Ça nous fait du bien d'y croire, même pour ceux qui n'y croient pas, ça fait du bien de se dire qu'on peut peut-être quand même faire quelque chose. Ça peut peut-être changer et améliorer la situation des gens.
Bien, alors c'est peut-être l'occasion de dire à ceux et celles qui nous écoutent, exactement dans la ligne de ce que vous venez d'exprimer, qu'à l'Institut de pastoral, il y aura 5 lundis soirs, hein, sur toute cette question de l'engagement social de l'Église. le nom du professeur. Oui, voilà, il s'agit donc du père André Descoteaux.
Oui, qui est dominicain, qui est en passant MBA, mais qui est aussi formé au doctorat en économie à Oxford. Donc, là encore, il ne s'agit pas de faire un discours de pancarte, là, mais vous voyez, d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'Église a à dire sur la société et disons-le, sur le rêve de Dieu pour les plus petits.
Donc, 5 lundis soirs à compter du 1er mars à l'Institut pastoral des Dominicains. Vous venez d'entendre Francine Robert, à la technique Daniel Fortin. C'est Claude Julien qui vous parle. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine à notre antenne et vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure.